Chaque mercredi à 17h30, eh bien vous retrouvez le magazine Lille 1 Info. Le magazine qui vous fait connaître Lille 1 un peu sous toutes ses facettes. Nous allons parler aujourd'hui d'informatique et notamment de valorisation de la recherche en informatique avec M. Christophe Chailloux, qui est professeur des universités et qui donc s'occupe du laboratoire d'informatique fondamentale de Lille. Bonjour Monsieur Chailloux.
Bonjour.
Donc voilà, la recherche en informatique à Lille 1, elle n'est pas récente.
Non, c'est un labo qui existait avant que moi j'arrive même sur l'université, il y a 20 ans. Mm-hmm. Le labo date de 83, je crois, le laboratoire d'informatique fondamentale.
Oui, et donc c'est vrai que depuis 83, l'informatique a quand même bien évolué.
Ben, c'est un domaine qui est en évolution extrêmement rapide, hein. Nous sommes les informaticiens, on est de plus en plus nombreux sur l'université, en enseignement, en formation, un peu partout.
Alors, c'est vrai que nous, on voit les effets de l'informatique, c'est-à-dire l'informatique concrète, la réalisation de produits informatiques, bref, la partie production, mais la partie fondamentale, la partie informatique fondamentale, c'est quelque chose que le public connaît finalement assez mal.
Ce qu'on étudie effectivement en recherche, hein, en informatique, mais aussi en automatique, ou les labos à côté, hein. C'est tout ce qui est la mise en place à la fois de l'infrastructure matérielle et logicielle, des outils qu'on utilise maintenant tous les jours, hein, les outils informatiques, mais aussi même les téléphones portables ou l'informatique qui est cachée dans les voitures. L'informatique est présente partout et derrière, nous, on imagine les recherches sur différents thèmes de comment ça sera après.
Donc vous avez combien d'avance sur l'après ?
On n'est pas toujours en avance, hein, on est des fois à côté, mais quand ça marche bien, on espère avoir un impact économique à 5 ans.
Et quand on est à côté, est-ce que ça peut servir à quelque chose ?
Il y a deux niveaux d'à côté. C'est comme toutes les sciences, hein. Il y a le à côté où c'est des choses très abstraites ou très théoriques, dont la finalité n'est pas claire à court terme, mais qui serviront, qui sont très formelles. Et puis, des fois, c'est des effets de bord. Enfin, c'est comme toute la recherche. On n'est pas spécifique de ce point de vue-là. Mm-hmm. On sait très bien que toute activité de recherche, il y a des prises de risque. Et donc, dès qu'il y a prise de risque, le résultat, il y a un taux d'échec. Mais en soi, démontrer que ce n'est pas faisable par cette voie-là, c'est un échec au sens où on n'a rien de nouveau. Mais c'est un succès au sens où, je veux dire, quand c'est prouvé que cette voie-là n'est pas la bonne, déjà, ça peut simplifier considérablement la suite des recherches.
Alors, quand on voit les générations de produits qui se succèdent, enfin, la radio, par exemple, c'est incroyable, en quelques années, les développements, les évolutions, et voir les choses qu'on a dû abandonner pour des technologies qui sont devenues très rapidement obsolètes, on se dit qu'il doit quand même y avoir une sacrée pression sur les chercheurs, du moins que le monde économique ou le monde industriel a besoin de renouveler très très rapidement ses produits. Moi, je vois des séries, je veux dire, qui s'arrêtent au bout de 6 mois, on remplace par d'autres, c'est fou.
Oui, à part qu'enfin, nous, on est quand même un peu plus en amont, mais globalement, ce qui est clair, c'est que du point de vue académique, on est dans un monde où rapidement les élèves, déjà à l'école, les élèves sont plus forts que sur cette, scientifiquement, certaines thématiques que les enseignants. Hein. C'est très difficile pour nous tous, les enseignants-chercheurs en informatique sur le campus. La vie est difficile. Hein. On est souvent arrivé à la fac avant certaines technologies qui sont maintenant la base de ce qu'on enseigne. Donc c'est dur en enseignement, c'est dur en recherche. Dans beaucoup de professions, l'ancienneté est un avantage pour nous. C'est clair qu'on doit dépenser une énergie considérable juste à rester au niveau des technologies.
La retraite à 70 ans, c'est pas vraiment l'idéal.
C'est clair que scientifiquement, pour nous, c'est très dur.
Voilà, donc quand on se rend bien compte des enjeux de ces évolutions technologiques et le développement économique qui en est fait, on se dit bien qu'il y a moyen pour une université, Lille 1 ou d'autres, mais peut-être on peut parler de Lille 1 puisqu'on y est, il y a certainement moyen de valoriser les recherches, notamment des labos de recherche.
Oui, donc moi, ma fonction actuellement, donc je travaille pour la DIRVED, pour une partie de mon temps comme chargé de la valorisation sur le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, donc les sciences du logiciel. Et dans cette nouvelle technologie, il y a deux parties. Il y a la partie plutôt technologie électronique qui est faite sur le campus avec l'IEMN, par l'IEMN. Et à côté, il y a les autres thématiques, plus les sciences du logiciel dont je m'occupe, hein, qui sont représentées par... tous les labos du campus intelligence ambiante de l'université, hors l'IEMN, donc il y a l'IFL dans lequel moi je travaille, qui fait de l'informatique. À côté, il y a le LAGIS qui s'occupe d'automatique et de systèmes robotiques, etc. Et tout le L2EP qui est le laboratoire de génie électrique de l'université. Donc ce périmètre-là.
Voilà, donc quatre sigles pour représenter quatre institutions. Peut-être qu'on peut développer un peu.
Oui, enfin, pour développer un petit peu, c'est que...
Déjà, citer les sigles pour les auditeurs.
Oui, donc je peux citer. Donc,
L'IEMN.
L'IEMN, c'est l'Institut d'électronique. Je vais peut-être faire des fautes. Hein, c'est l'Institut d'électronique et de microélectronique et de nanotechnologie, qui est situé à l'entrée du campus, près de la station de métro 4 Cantons.
Alors, quand on dit institut, ça veut dire école?
Non, c'est un institut de recherche. C'est une association entre plein d'universités et le CNRS, le gros partenaire universitaire étant l'Université de Lille 1.
D'accord.
Et c'est un laboratoire qui s'occupe, comme c'est dit, de tout ce qui est électronique et jusqu'aux nanotechnologies maintenant.
D'accord.
Mais c'est en dehors du périmètre dans lequel je m'occupe pour l'université.
D'accord, mais on passe en revue avoir une idée.
Tout à fait. Donc, ça c'est l'ensemble du périmètre des nouvelles technologies, l'information et la communication, ce qu'on appelle les NTIC. Ou STIC, STIC, sciences et technologies, l'information et la communication. Et donc ça, c'est la partie matérielle, on va dire, de l'évolution des nouvelles technologies. Et le côté, nous, on s'occupe plutôt du côté plutôt logiciel, les systèmes, et il y a trois laboratoires sur l'université dans ce thème-là. Hein, donc l'AGIS, pour le laboratoire d'automatique, je ne sais même pas la suite, laboratoire d'automatique, des génies informatiques, je ne sais pas. Le L2EP, qui est le laboratoire d'électronique de puissance, et l'IFL, pour le laboratoire informatique fondamental de Lille. Mmh. Et donc, ces labos-là qui recouvrent l'ensemble des sciences autour des technologies d'information et de communication.
Alors, on parle beaucoup en ce moment de développement durable. Est-ce que l'informatique peut y contribuer? Est-ce que c'est une des pistes de vos recherches, voire une de vos missions?
C'est compliqué. Globalement, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup encore. Sauf peut-être la partie L2EP avec tout ce qui est nanosource, la partie L2EP, donc génie électrique avec les énergies renouvelables, les panneaux solaires, pour faire du courant avec des énergies renouvelables. Et ils commencent à travailler là-dessus avec les voitures électriques. Donc le génie électrique est touché par cette thématique de développement durable. Plus que nous en informatique, on n'y travaille pas beaucoup. Moi, à titre personnel, il y a quand même un thème auquel je crois vraiment, c'est que les nouvelles technologies peuvent permettre de changer les lieux de travail. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de se déplacer pour travailler avec les visioconférences, les mails. On peut travailler à des endroits différents. Et donc, c'est un des enjeux sur lesquels il faut qu'on travaille. Une des manières de faire du développement durable, c'est d'éviter les déplacements inutiles ou de réduire les déplacements. Et aujourd'hui, les technos sont prêtes ou presque prêtes. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on mène une réflexion sur utiliser nos technos de communication pour diminuer le nombre de déplacements, réduire les déplacements inutiles. Mais c'est une idée personnelle.
Alors, c'est vrai qu'on a l'occasion parfois d'assister à des vidéos, visioconférences. Bon, c'est vrai que les technologies nouvelles aident et permettent de le faire entre des chercheurs peut-être, hein, entre des scientifiques qui veulent correspondre.
C'est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les chats, les visioconférences, les réunions qu'on peut faire à distance, la techno est à peu près prête. Après, c'est un problème de prise en compte humaine, c'est-à-dire que de faire voir qu'il y a d'investissement aujourd'hui, un peu d'investissement d'équipement, de caméras, de réseau au débit, puis du bainement de s'y prendre. Hein, c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'aspect humain. C'est-à-dire que nous, on le fait bien en recherche, hein, en travail, on est avec des gens qui sont à distance, on travaille avec la Chine en particulier, on collabore régulièrement. Et c'est pas gênant de travailler à distance, même par mail ou par téléphone, ou par téléphone sous IP, enfin par les PC, ou par visioconférence, avec des gens qu'on connaît. Par contre, ça ne permet pas de découvrir les gens. C'est-à-dire qu'il faut garder un peu les deux, quoi. Il faut garder une partie physique et une partie qu'on peut très bien mettre à distance.
C'est vrai que c'est difficile de manger ensemble par Internet.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie de
convivialité,
de convivialité qui est perdue. Donc on ne peut pas remplacer tout, mais l'idée n'est pas forcément de tout éradiquer, enfin, c'est toute l'évolution de notre société. On voit bien qu'il faut consommer moins de pétrole, il n'y a pas le choix, mais l'idée c'est pas de passer de plein, d'énormément comme actuellement à zéro instantanément. Donc il faut réfléchir et regarder, et c'est comme tous les diminuer les voyages en avion inutiles, c'est pertinent. Les remplacer par de la visioconférence, c'est une solution qui marche quand même, qui peut marcher pour une partie de l'activité, pas pour tout. C'est clair que il faut garder les aspects humains. Aux États-Unis, suite aux dernières évolutions, il y a des très grosses entreprises de pharmacie qui ont décidé que tout le personnel ne travaillait plus que 4 jours sur 5 sur site et qu'ils étaient équipés d'informatique pour gagner rien que le déplacement d'une journée de travail pour aller au travail, pour réduire de 20% les frais de transport.
Alors, à titre personnel, je voudrais remercier tous les scientifiques et les chercheurs, notamment en informatique, qui nous permettent, qui me permettent d'avoir des conversations, de voir des gens en direct dans le monde entier. Et ça, c'est quand même quelque chose d'éblouissant. On dit actuellement, il n'y a rien qui va, mais quand on voit ces choses-là, je veux dire, c'est merveilleux. On peut dire qu'on est aussi dans un univers qui apporte son part, sinon de rêve, du moins de possibilités, de relations, d'échanges.
Oui, moi j'aurais tendance à dire on peut faire un usage, après c'est pas forcément toujours bien fait, mais globalement on peut faire un usage extrêmement intelligent et positif de tout ce qui est les nouveautés qui apparaissent, les nouvelles possibilités, tout ce qui est autour des mondes virtuels, tout ce qui est autour de faciliter l'interaction avec des gens distants, etc. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que moi je considère que on peut y participer, mais que c'est l'ensemble de la société qu'il faut se poser la question. Donc les nouvelles technologies évoluent, nous on contribue à la technologie derrière, à faire que ça évolue. Après il faut se poser des questions d'usage. On est un peu, c'est pas très différent des problèmes de bioéthique, à part que c'est moins grave, ça touche pas sur l'humain lui-même, mais c'est un peu le même genre de problème.
Donc je sais qu'il y a toujours une partie réflexion sur l'éthique, voire la morale dans la recherche. Ça touche aussi et de façon sensible l'informatique?
Non, c'est pas, on en parle un peu, mais c'est pas central pour nous.
Alors, on a appris récemment que l'université de Lille, pour l'aspect universitaire, était 9e au classement français des universités. Est-ce que ça a un impact sur vos laboratoires? Est-ce que vous y avez contribué? Comment?
Mais enfin, je veux dire, vous, faut être, on peut être fier de nous, hein, clairement. L'université de Lille a une très grosse université. Globalement, l'ensemble de la du TEMSTIC, en comptant le parti matériel et logiciel, c'est presque 1000 personnes qui travaillent avec tous les partenaires, les stagiaires, etc. C'est presque 1000 personnes. C'est une très grosse activité. On est bien reconnu. On est le 9e rang français. Ça nous va très bien. Je veux dire, je pense qu'en informatique électronique, on est au moins là, peut-être même un peu. Moi, ça me paraît bien. Je pense, j'espère même qu'on est un peu mieux.
Donc, votre labo attire les étudiants, les chercheurs, les industriels, qui ?
Donc, sur les différents laboratoires, donc pour la partie valorisation, le travail, l'idée que j'ai à faire, moi, c'est d'augmenter les interactions entre les équipes de recherche et ce que moi j'appelle, pour le sens large, la vraie vie, le monde économique. J'aime bien caricaturer sur le mot de vraie vie par rapport à nous qui sommes dans un milieu.
Quand on dit la vraie vie, c'est peut-être aussi la vie de ceux qui ont l'argent, non ? Ou la vie, L'AVIS ?
Non, c'était la vie VIE.
D'accord, concrète.
La vie concrète, enfin la vie économique, voilà.
Bon.
Que j'appelle la vraie vie, mais c'est.
Bon.
C'est comme ça, c'est pour rigoler. Mmh. Et donc, ce travail-là, il y a différents aspects dans ce qu'il faut faire. Hein. Donc, il y a déjà. Le travail de valorisation directe, c'est-à-dire que moi je passe du temps à regarder dans toutes les équipes ce qu'il y a comme résultat, puis d'essayer d'accompagner les gens pour essayer de les proposer à l'extérieur, donc de montrer ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire que les chercheurs montrent dans les conférences scientifiques, mais ils ne montrent pas tellement vis-à-vis de l'extérieur, et donc ça c'est une de mes tâches, de montrer ce qui est fait, pour essayer de faire que d'intéresser les industriels et de faire qu'il y ait un bénéfice économique de ce qui est fait du point de vue académique. Une deuxième mission, c'est de travailler à faire se rencontrer les chercheurs avec les gens d'entreprise. Hein. Donc on participe pour ça, on participe à des salons, à des manifestations organisées. On nous sollicite pour participer à des manifestations, des chambres de commerce, des choses comme ça, comme mi-novembre il n'y a pas longtemps. Et on va à des choses là pour présenter la fac, essayer d'organiser des rendez-vous pour qu'il se passe plus de liens entre les recherches et les chercheurs et les entreprises. Là, toutes les semaines à peu près, j'organise une réunion et on fait ce travail-là avec les deux partenaires importants qui sont l'INRIA et l'île Nord Europe. L'INRIA, qui est un organisme national, vient d'ouvrir un centre juste à côté de chez nous. Et on travaille avec eux pour... eux, ils ont une meilleure notoriété que l'université auprès des entreprises. Donc on utilise ça, ils utilisent des moyens. Et donc ensemble, en synergie... On essaie d'organiser plus de rencontres entreprises labos. Et une autre partie, c'est d'essayer de... ce qu'on a fait à l'université est très nouveau. La troisième partie, c'est d'essayer de créer des entreprises. Donc l'université est très active avec Créinov sur ce thème-là. Et donc moi, je suis les différents projets autour de mathématiques, logiciels, dans le cadre de Créinov. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, d'essayer de faire émerger de nos labos de nouvelles activités économiques, mais c'est nous les moteurs. L'université est moteur, ou l'INRIA, enfin la partie des chercheurs sont les moteurs. Alors ce qui est difficile, c'est qu'il faut trouver à la fois, pour faire une entreprise, il faut une bonne idée, qu'il y ait un beau résultat, puis quelqu'un pour le porter. Et donc c'est pas facile d'avoir les deux tout le temps. Des fois on a quelque chose de très beau, mais on n'a pas l'être humain. Puis des fois on a un être humain qui a vraiment envie de faire des choses, mais ce qu'il fait c'est pas, enfin ce qu'il a, son rêve n'est pas très innovant. Et donc faut essayer de faire coller. Et quatrième et dernier point d'activité de ce qu'on fait beaucoup dans Créinov, c'est d'accompagner nos étudiants. Hein. On est quand même tous pratiquement, enfin la majorité d'entre nous sommes des enseignants chercheurs, et donc on a plein d'élèves, que ce soit à Polytech, à Télécom ou à l'université au fil hein, à l'IEA. Et donc, certains de nos élèves ont envie de créer de l'activité, de créer leur entreprise. Donc, on les accompagne dans le cadre de Créinov. Donc, voilà en gros les quatre missions, les quatre formats de ce qu'on peut faire pour essayer de... Hein, clairement, l'idée, c'est d'augmenter notre impact économique. Voilà.
Alors, vous parliez de montrer... est-ce que vous avez des outils de démonstration, de monstration, de communication, quels sont-ils? Alors à la fois peut-être pour le grand public, mais c'est peut-être pas celui qui est visé, mais pour les entreprises.
On va jusqu'au grand public. Hein.
D'accord.
On fait du grand public dans le cadre de Science en Fait. Mm-hmm. Par exemple, on montre des choses. Ça commence vendredi, samedi, dimanche à la condition publique. Le projet s'appelle Sphère, c'est porté par l'université, hein, c'est Catherine de François qui fait ça, mm-hmm. Service Com, et on a mis en place un monde virtuel, je ne l'ai pas vu encore, mais il y a des gens de mon équipe qui ont participé, et mm-hmm. d'autres équipes de l'université, où on fait du grand public pour montrer ce qu'on fait, pour attirer des gens. Un des vrais enjeux pour nous, c'est d'attirer les jeunes à tous les niveaux, et donc on a un vrai problème d'attraction, comme toute l'université de sciences, hein, mais... nous on a quand même des choses assez jolies, puis on est quand même proche de l'économie, on est dans le cœur de l'activité, donc attirer des jeunes vers nous, c'est faisable quoi, et donc on fait ce qu'on peut, donc on fait du grand public.
D'accord, donc attirer les jeunes, encore faut-il qu'ils aient les capacités? Comment on détecte les capacités d'un futur informaticien?
Après on le fait dans le cadre de nos formations, c'est-à-dire que les étudiants, on les récupère en licence d'informatique, on les a dans les masters, on les a plusieurs années, et on voit bien, en gros, on les a 3-4 ans en formation à l'université, et on repère bien ceux qui ont le potentiel.
D'accord.
On n'en a pas assez, justement, ou même parmi ceux, on n'a pas assez qui ont le potentiel, il faut qu'on attire plus de gens de haut niveau vers l'informatique. Mmh. Et même parmi ceux qui ont le potentiel, il y en a beaucoup qui sont attirés par une vie différente, d'aller bosser dans les sociétés de services en informatique, enfin d'aller bosser dans les entreprises qui, elles, sont très friands de nos étudiants, quel que soit d'ailleurs, que ce soit Télécom, à Polytech, moi je suis prof, ou à l'IEA, et qui viennent avec leurs camions sur nos parkings en leur offrant à boire pour les inciter à venir bosser chez eux, en leur offrant des bons salaires dès le stage, etc.
Alors, c'est vrai qu'à la limite, vous parliez tout à l'heure de la capacité d'un professionnel à s'inscrire dans la durée, et notamment dans les évolutions technologiques et de la recherche. Pour ces industriels, ils ont intérêt à embaucher des jeunes qui viennent d'être formés, ou il n'y a pas le risque aussi d'envoyer les gens qui ont plus d'âge planter leurs choux plus tôt, ou comment ça se passe?
Je ne sais pas bien là. Si j'ai compris votre question, c'est sur la stratégie de gestion des gens.
C'est-à-dire les industriels, ils ont intérêt plutôt à chercher des jeunes bien formés, pas forcément payés très vite au départ, ou...
Mais il y a globalement, je pense que ça va se calmer cette année avec la crise économique. C'est clair que depuis longtemps maintenant, la dernière crise chez nous remonte il y a plus de 10 ans. Hein. Clairement, chez nous, on a autour de l'informatique, il y a une pression énorme des entreprises. On ne forme pas assez de gens par rapport aux besoins même d'Atos. Ici, en région, on doit former la moitié du nombre de postes. Il n'y a qu'à regarder... la publicité, d'ailleurs ça nous énerve un peu nous en tant qu'universitaires, de toutes les entreprises privées, de l'Epitech, de publicité, de toutes les boîtes de formation privées qui viennent même s'installer même sur l'île, hein. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à répondre à la demande des entreprises.
D'accord.
Et c'est sûrement un peu une partie de notre faute, mais un de nos problèmes, c'est qu'on n'arrive pas à attirer vers l'université les étudiants de valeur.
Bon, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils soient séduits par le projet de l'île?
On y travaille, hein. Je pense que avoir une bonne entente avec les entreprises régionales, en particulier dans le cadre des pôles de compétitivité comme l'industrie du commerce ou Optex, ça augmente notre image vis-à-vis des étudiants, hein. Un des critères des étudiants pour venir dans les universités, c'est de dire on va aller à l'endroit qui nous formera pour qu'on ait du travail. Nous, on peut dire, je peux déjà dire à tous les étudiants qui écoutent, nous, on forme les gens, ils ont du travail, donc venez chez nous. Mais même ça, c'est encore trop petit par rapport aux besoins. Enfin, on verra cette année, peut-être cette année, ça va être beaucoup plus calme. Mais...
Alors, vous parliez de faire connaître la formation en informatique, la recherche en informatique, de valoriser vos laboratoires. Est-ce qu'il existe des outils médias, j'allais dire multimédia, des CD, des sites internet où on peut avoir une idée assez large de ce que vous proposez ou de ce que vous produisez?
Non, enfin, on a nos sites web, mais clairement, on fait assez peu d'efforts de ce point de vue-là. Pour les industriels, c'est l'industriel qui nous intéresse, c'est suffisant. Avec nos sites web de recherche, ils peuvent se débrouiller à trouver les personnes compétentes quand ils ont besoin. Par contre, pour le grand public, non. On n'a pas... Non, on ne fait pas l'effort. Enfin, je veux dire, clairement, l'effort de le grand public, on le fait quasiment que lié à Science en Fait ou quand on répond aux sollicitations de la cellule com de l'université. On n'a pas une stratégie. Autant, vous voyez que l'université me demande une mission et une stratégie vis-à-vis des entreprises. On n'a pas de stratégie, au grain où on est là, de laboratoire, on n'a pas de stratégie vis-à-vis du grand public. C'est peut-être dommage d'ailleurs, mais on n'a pas.
Quels sont les grands événements dans l'année qui seraient plutôt grand public ou les grands moments de rassemblement de chercheurs en informatique? Est-ce qu'il y a des moments clés sur l'île 1?
Pour le grand public, non. Pour le grand public, la seule manifestation, d'accord, et c'est maintenant, c'est Science en Fait. Et là, on montre à la condition publique des choses qui ont été faites, d'accord, autour d'un campus virtuel. Et justement, Catherine Lefrançois, la cellule COM, a une vraie volonté de mettre en place sur des outils montrant les différents équipements du campus. On voit bien, comme nous, on a une salle de réalité virtuelle qui a 10 places. On l'a ouverte pour Science en Fait, mais on peut accueillir quelques... je veux dire, c'est un gros travail, on peut accueillir que 10 personnes d'un coup dans la salle, il faut un quart d'heure, 20 minutes pour comprendre ce que c'est que l'objet, donc vous voyez que c'est que des petits volumes. Et donc, et c'est plein d'équipements comme ça, il y en a même des équipements de l'IRM et tout, qui sont carrément dangereux, on ne peut pas faire venir aux gens, et donc l'idée qu'a l'université, que moi je soutiens lourdement, vis-à-vis du grand public, c'est de mettre en place une sorte d'univers virtuel et d'outils qui permet au grand public d'accéder sur le web, ou on pourrait imaginer même de mettre des périphériques spécifiques pour qu'ils puissent y accéder dans des manifestations, sur des manifestations où ce sera mieux expliqué, avec plus d'interaction des équipements dont on dispose sur l'université. D'accord. C'est une piste, et c'est fait.
Alors, rencontres entre professionnels?
Donc, pour les rencontres entreprises, donc on utilise beaucoup... leurs outils des entreprises, donc les chambres de commerce. Les chambres de commerce organisent des fois des manifestations, donc quand on est sollicité, on essaye d'y répondre, de présenter. Il y a eu le 6 novembre, où la chambre de commerce a organisé quelque chose, justement, une manifestation autour de l'innovation, en disant à leurs entreprises, venez voir, les universités viennent dans la chambre de commerce pour vous présenter ce qu'elles font, et donc nous, on en répond à ce genre de manifestation, de la même manière que aujourd'hui, la suite aux dernières organisations politiques nationales, hein, je veux dire, l'enjeu est mis autour des pôles de compétitivité, qu'on a entendu parler, enfin, avec des différents niveaux, et clairement, nous, on joue ce jeu-là, hein, on va dans les manifestations organisées par les pôles. Globalement, le pari qu'on a fait, nous, c'est de jouer beaucoup le pôle PICOM, pour pôle industrie du commerce. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, on a une industrie du commerce quand même qui est florissante, hein, et la stratégie qu'on a envie de développer, c'est de se dire, en s'appuyant avec cette industrie, on pourrait faire de notre campus ou même de la métropole un vrai grand lieu d'innovation, pourrait être encore plus mieux que neuf quand dans votre classement.
Bien, Monsieur Christophe Chailloux, je vous remercie d'être venu donc nous parler de la recherche en informatique et de sa valorisation sur l'île 1.
Merci beaucoup.